Henri vient de traverser des espaces désertiques d'une grande aridité. Il glissait lentement hors de son corps. Nudité, monotonie, nudité de ce décor, nudité sienne, monotonie, monotonie de sa vie. Un vol lent et bas au-dessus d'une toundra sans animaux et sans oiseaux. Des bouquets de fleurs sèches, des touffes jaunies d'herbes coupantes, des tapis de mousse qui n'évoquent pas la douceur. De grandes déchirures de sable et de cailloux. Pas d'eau, pas de vie. Que ce lent glissement, il s'en est échappé, il y retourne. Plusieurs fois, il a cru basculer vers autre chose. Une lumière l'appelait, qui essayait de s'extraire de l'horizon blême. Elle n'y parvenait pas. Et pourtant, l'appelait. Pas un soleil, mais une fallacieuse lumière, sans couleur, sans contour, d'une opalescence assoupie. Plus il s'approchait d'elle, plus l'univers s'étrécissait, s'y résumant. Il s'insinuait dans une grande allée. Ce n'étaient pas des arbres qu'il abordait, mais des silhouettes hautes et sans relief, rosées, diaphanes, informes et monotones, répétées, infiniment répétées. Et qui se succédait, l'entraînant vers un ailleurs, qui l'aspirait. Tendrement l'aspirait. Une douceur immense l'envahissait, cernée d'une musique incertaine, inconnue. Une musique de nuages, jamais entendue. Douce, limpide, consentante, absolue. Plus cette musique le pénétrait, plus le mouvement ralentissait, les formes se précisaient. Certaines avaient allure d'humanité et voulaient évoquer des êtres connus de lui. Mais il ne pouvait attacher sa pensée, il ne pouvait avoir que le sentiment fugitif d'une connaissance. Il pensait rejoindre un monde effacé, mais bien connu de lui. Il approchait d'un univers sien. La lumière lugubre commençait à envahir son espace. L'allée s'éclaircissait de plus en plus et aspirait le solde de son moi asservi. Les êtres évoqués se diluaient en elle, résumant l'ensemble de son univers. Cette lumière, cette musique, musique densifiée, tendant vers un son monocorne et lancinant d'une tonalité lascive. Tout mouvement de son corps avait disparu, statique. Il devenait captif de cette blancheur sans vie. Une présence, une chaleur a lentement coloré cette lumière. Il lui a semblé qu'elle respirait, que des ondes la parcouraient, l'irisant. La chaleur s'est communiquée à son corps et il aperçut l'existence de sa main droite, comprit que cet élément était sien. Derrière ses paupières closes, son esprit a commencé de retrouver d'autres éléments de son corps. Il se découvre la volonté de remuer son pied. Il parvient. La lumière est bien réelle. Ce n'est plus celle de ses espaces oniriques, mais une clarté qui filtre à travers ses paupières. Henri aimerait les ouvrir, mais son corps l'en empêche, comme si une barrière était établie, le protégeant de la douleur. Une immense lassitude tombe sur lui. Ses quelques efforts l'ont épuisé. Il lui en reste pourtant un à accomplir. Relever ses paupières, découvrir ce qui est de l'autre côté. Son crâne lui fait mal à présent. Henri ? Il ouvre enfin ses yeux. Amélie est là, qui lui sourit. Il s'est endormi sur le visage flou d'une Amélie sévère. Il se réveille avec son reflet souriant et paisible. Il essaye de sourire, mais ses joues sont épaisses. Il ne croit pas souffrir. Sédatif. Il repart. Amélie a été alertée par les brouhahas de l'université qu'elle avait rejointe dans l'après-midi. Elle a couru vers un journal et filé à Purpan. Le diagnostic y était meilleur que dans la feuille de chou. La vérité n'est pas vendeuse. Si le cœur tenait, il s'en tirerait sans trop de problèmes, sans séquelles. Un traitement anticoagulant appliqué après résorption chirurgicale de caillots mal placés permettrait d'éviter l'accident vasculaire. Amélie est restée 2 heures, essayant de communiquer. Un instant, elle a vu les yeux d'Henri, s'est convaincue qu'il avait souri, avant de sombrer encore. Elle a appelé Lucas, qui viendrait dès qu'il pourrait. Elle n'a pas parlé d'Henri à Lucas. Elle le fera sans doute. Elle a alors pensé à Virginie. Fouiller les effets d'Henri. Dans son agenda, un numéro gribouillé auprès de son nom. Elle appelle. Personne. Elle laisse un message sur le répondeur. Elle quitte Purpan. Sur le chemin du retour, elle se projette Caligula. Revoit Henri. Jouer le rôle du sanguinaire tendre, le voit dans la dernière réplique, poignardé, jetant son cri. « Je suis toujours vivant !» Sitôt chez elle, Amélie s'allonge. Lucas n'est pas encore passé ce soir. Peut-être a-t-il fait un détour par l'hôpital ? Peu importe, elle dort. Chris est en incertitude. Il n'a pas encore rejoint le cercle de ses affidés. Il n'a pas dormi. Il est sans regret et sans envie. Plat. Il vient de lire le journal, de se lire. Il a vraiment mal dormi. Il n'a pas dormi. 19 ans. Inscrit par-ci, par-là, mais écrit nulle part. Il n'a fait que croiser sa vie. Il ne faut surtout pas rien croire. Il déroule en boucle dans sa tête ce frugal et incertain monologue. Il n'a pas quitté le cœur de sa personne. Il glisse, impuissant, dans des environnements inconnu de lui, qui le régénère. Depuis ce soir de violence, il a rejoint son ego, solitaire, en malaise lui aussi. Contagion. Henri retrouve le port. Autre blancheur. Peu de vie, que des glissements furtifs. Une odeur l'assaille. Il revient d'un monde sans odeur et la première qu'il retrouve est de celle qui endort. Derrière l'odeur de pas d'odeur, des airs contrits, des sourires infondés, cachant trop mal une malfaisante pitié. Il repart, pas retenu, pas invité. Il repart. Refus, retour en mer lisse, ne pas se réveiller, repartir, glisser encore vers la lumière intense, ne plus jamais se réveiller. Sa bouche est épaisse, coincée, aucune douleur. Pourtant, il perçoit qu'elle peut exister, masquée par un épais rideau, proche, en lui, mais par-delà une frontière. Un grand rideau noir au cœur d'un univers tout blanc. La douleur est derrière, si elle ne lui parvient. Une douleur habillée, dont il est destitué. Chris songe seul. Il a souvent jeté sa hargne à la gueule des quimpés. Banal. Son premier tableau, un instit un peu laborieux. Pas méchant, mais à chier, à planter. À la sortie de la classe, avec des copains, il l'avait attendu. Chahuté et un peu tapé. L'autre n'avait pas compris. Il s'était bien marré. 11 ans ou à peu près. Il a beaucoup essayé, décollé en col d'avion, le shit et le triclos, un bout d'héros, 2 doigts de coq, le crack qu'il avait démonté, quelques trucs encore, et l'alcool en tout cas. Pas drogué, pas accro pourtant, simplement en recherche. Il passait, essayait, mais ne trouvait jamais son truc. Il n'a pas de truc. Il ne sait pas ce que ce peut être d'avoir un truc. Il zonnait. Pas d'autre mot, zonnait. Interrogeait tout. Et s'il trouvait des réponses, jamais la sienne. Quelquefois, peut-être, en compagnie. Jamais ne s'attachait. Ni en meuf, ni en pote. Il passait et cherchait. Savait-il seulement ce qu'il cherchait? 3 images seules le secouaient. Le talent sida de Mano Solo, MC Solar, et puis Verlaine. Comme ça, il s'était dit Verlaine, juste pour faire chier les autres, pour se connecter peut-être aussi à l'univers qu'il vomissait, qu'il attirait. Il s'était pris au jeu, au rendez-vous de la solitude. Il se lisait 1 ou 2 poèmes, jamais les mêmes. Il ne comprenait pas toujours, mais toujours, ressentait. Quand Marco dormait, oh, quel parfum d'ambre et de chair mêlée opprimait la chambre. Sous les draps, la ligne exquise du dos ondulait. Et dans l'ombre des rideaux, la laine montait, rythmique et légère. Un sommeil heureux et calme fermait ses yeux. Et ce doux mystère charmait les vagues objets parmi l'étagère, quand Marco dormait. Mais quand elle aimait, des flots de luxure débordaient, ainsi que d'une blessure sort un sang vermeil qui fume et qui boue, de ce corps cruel que son crime absout. Le torrent rompait les digues de l'âme, noyait la pensée et bouleversait tout sur son passage, et rebondissait, souple et dévorant comme de la flamme, et puis se glaçait. Son Verlaine, connerie de lui. Henri s'en vient, Henri s'en va. Parfois, sur ses paupières, son bras, il trouve une chaleur. Quelqu'un l'a approché. Une affection, un point chaud qui se développe en couronne concentrique, envahissant son corps, envahissant sa tête, liquéfiant ses rêves de cire. Douce chaleur qui colore les lumières de l'allée, l'invitant à ne plus avancer. il pourrait revenir à la vie, mais derrière le rideau noir le guette une douleur. Par-delà ses paupières le guette la vie. Il repart, il abdique, il retourne à l'immobilité, à l'allée, à la lumière triste et enjôleuse. Il rencontre Verlaine, l'oublié. La lune est rouge au brumeux horizon, dans un brouillard qui danse la prairie s'endort fumeuse, et la grenouille crie par les joncs verts où circule un frisson. Les fleurs des eaux referment leurs corolles, des peupliers profilent au loin, droits et serrés leurs spectres incertains. Vers les buissons errent les lucioles, des chats-huants s'éveillent et, sans bruit, rament l'air noir avec leurs ailes lourdes, et le zénith s'emplit de lueurs sourdes. Blanche, Vénus émerge, et c'est la nuit. Virginie ne peut pas bouger, elle est là, suspendue dans la lumière molle, vit devant un reste de vie, et ne peut s'avancer. Ce corps vide, devant elle, et qu'elle ne connaît pas, une enveloppe, elle ne sait l'approcher. Où est la substance? Ils sont tous deux, seuls. Elle en retrait. Elle a bien hésité après toute la politesse fonctionnelle et glacée qui l'a accueillie à Purpan. Elle a, premier moment d'elle, hésité devant cette porte sombre, ce barrage. Elle s'est arrêtée, incertaine, une respiration approfondie de quelques secondes l'a enfin poussée, comme en un rêve. Autre réalité. La porte à peine ouverte, les images se précipitent provenant de ce père. Il faut le retrouver avant de le voir autre. S'imposent alors des scènes douces qu'elle attarde en sa tête pour effacer l'inquiétude poignard qui l'oppresse. La porte, à peine ouverte, elle n'ose avancer. Des images affluent de ce père, inconnu, si présent, qu'elle va retrouver. Ce sont des sourires qui s'empilent, suite rapide d'instants qui remontent en elle, ne peuvent se fixer. Toujours des sourires, seules images acceptées. Elle avance, enfin réconfortée, en appétit. Derrière elle, la large porte se referme. Avec elle, s'évacue leur passé. Henri lui apparaît. Désarmée, elle ne peut s'approcher. Il n'est pas réveillé. Il respire, hors d'atteinte, hors de vie. Il ne paraît pas souffrir. Se réveillera-t-il? Elle saisit subitement le sens que revêtirait sa disparition. Elle découvre combien elle y est tachée. Et lui viennent des larmes qu'elle n'a pas commandées. Elle reviendra demain. Chris est endormi, épuisé. Il n'a vu personne aujourd'hui. Sa tête flotte. Il ne s'est attaché à rien. Enfin, voilà, c'est Amélie qui m'a dit de venir l'attendre ici. Lucas ne sait vraiment pas s'il doit parler. Une chambre anonyme l'a accueilli. Il était venu à la rencontre de son ami. Il efface un corps qui ne réagit pas. Plus il a approché du lieu, plus il a senti que ce ne serait pas elle qu'il trouverait. Autre rencontre, importante. Quelquefois, il a eu cette intuition bizarre. Parfois, il la pensait seulement fruit de son attente, une attente incomprise. Parfois, il l'appelait intuition, prémonition. Ce qu'il sait à présent est que ces instants-là annoncent une importance, un état bizarre, indéfini, dans lequel il se reconnaît, distrait, fugitif, volatile, affleurant sa vie et ne la goûtant pas, étranger quelque part, se préparant au retour, autre. Quelques années passées, 20, jamais trop de questions, et toujours les réponses, réponses qui le plus souvent s'initie en son corps. Quelquefois, enfin, des brèches pour lesquelles son corps si fidèle ne sait répondre. Amélie en est une. Plutôt, venez d'en ouvrir une. Il se l'était dit hier, bêtement, pressentant qu'elle en appellerait d'autres. Alors se questionnait, dubitait, sentant comme un autre monde enfermé en son corps, défense envers des démons ravageurs qu'il refusait de recevoir. Des idées fugitives parvenaient parfois à l'atteindre. Non, je ne suis pas simple, je me veux simple. C'est au-delà que se trouvent mes réponses. Sa première rencontre amoureuse avec Amélie lui revient en mémoire, vive, brutale, infinie. Il ne pense qu'à leur corps, et le sien réagit. Dans la chambre d'hôpital, bercé des bruissements assourdis, il ferme les yeux. Il songe à ce qu'il aimerait appeler « bonheur », se dit qu'il vient peut-être de frapper à sa porte. Il est un chemin qui conduit à l'amour. Tu as emprunté seulement les raccourcis et tu n'as pas connu l'amour. C'est ce chemin, ton chemin, qu'il te faut enfin découvrir. A-t-il lu ces lignes ou se sont-elles inscrites en lui? Un livre, une émission, une conversation? Ou lui-même? Amélie. Amélie qui amène les questions. Il vient d'apercevoir Henri. Pourquoi Amélie lui a-t-elle donné rendez-vous ici? Qui est cet homme, ce malade bien amoché? Un ami, lui a-t-elle dit. Va le voir, je serai peut-être là. Sinon, reste auprès de lui. Fais ça pour moi. Bien amoché. Il respire normalement, apparemment. « Monsieur !» Il ne bronche pas. Il doit être drogué. « Je vais rester un peu. Elle va peut-être venir. » Inspiré par l'affection qu'il appelle vers Amélie, sentant que cet homme est important pour elle, son père, un ami, Lucas pose sa grosse patasse sur le bras de l'homme. À travers la fine toile du pyjama, il sent les vibrations de la vie. Il se sent plus chaud que cet autre, qui n'est quand même pas bien. Il attarde sa main, à l'impression d'une demande émanant de ce corps abandonné, qui, tel un aimant, l'applique à rester là. Il s'assied tout en gardant sa main posée sur le bras. L'autre ne bouge pas. Mais Lucas a l'impression qu'il se passe quelque chose entre eux. Amélie lui a demandé de rester là. Elle doit être attachée à cet homme. Il faut qu'il soit là, qu'il fasse quelque chose. Ils ne se connaissent pas. Henri est ailleurs. Lucas, lucide, est là. Pourquoi? Leur corps en contact, Le corps, c'est plus que le mouvement, c'est plus que l'exploit, plus que l'amour. Le corps, c'est aussi une écriture. Il est là, je ne le connais pas, et nous sommes ensemble. Le bras d'Henri a légèrement frémi. Lucas se redresse. Se tend. Et s'il allait se réveiller ? Monsieur ! Monsieur ! Que ce frémissement, et l'autre est reparti. Je ne vais peut-être pas rester là plus longtemps. Retrouver Amélie, lui donner des nouvelles. Il ne veut pas encore bien, mais il vit. Vit ? Mais qu'est-ce donc que la vie ? Virginie est de nouveau auprès de son papa. Elle a passé une nuit agitée, mélangeant ses souvenirs d'enfance et ses craintes. Elle regrette les nombreuses fois où elle a différé une rencontre avec lui, dévorée qu'elle était par sa nouvelle vie indépendante. Elle regrette aussi que lui n'ait pas cherché à échapper un instant à la sienne. Cette première rencontre, depuis si longtemps, a un goût bien amer. Elle ne sait même pas si ce sera une rencontre. Demain, elle doit être à La Rochelle. Elle s'approche de lui, l'embrasse et longuement mouille son visage de ses larmes. Il ne réagit pas. Elle prend sa main, la serre tendrement, lui parle de son nouveau stage. « Je suis contente, tu sais, tout se passe bien et je crois qu'il m'apprécie. » Elle fait une pause et le silence lui répond. Je suis heureux de t'entendre. Je suis heureux d'entendre ça. Je suis heureux que tu sois là. Je suis toujours à La Rochelle. Je t'avais parlé de l'attente de mes patrons de Béziers. Eh bien, à la sortie de stage, elle a prolongé par un contrat à durée déterminée en mi-temps. Ainsi, j'aurai le temps de terminer mes études et en aurai les moyens. Oui, papa, j'aurai alors un diplôme de technicienne supérieure en environnement. Virginie sent à présent que son père serre sa main et cela se prolonge. Elle est très émue, à peine à reprendre la parole. Voilà, je ne suis pas tout à fait dans ce que je souhaite, mais ça s'en rapproche. La société pour laquelle je travaille maintenant fournit à des collectivités, des entreprises, des matériels variés qui concernent l'environnement. Henri exerce une pression accentuée sur la main de sa fille, mais son visage reste impassible. Lointain. Ce que j'aimerais, c'est travailler auprès de collectivités ou associations, être à la fois près des gens et du terrain, être près de la vie. Henri retire lentement sa main. Son visage grimace un peu et puis se détend. Virginie pense au conseil que lui a donné l'infirmière et se prépare à partir pour ne pas trop le fatiguer. Elle est bien sûr un peu frustrée, mais trouve espoir dans ce qu'il a bien voulu lui dire à travers sa main. Elle l'embrasse, pose sur son front un baiser qui s'attarde. Elle repassera le lendemain matin avant son départ et le verra toujours en sommeil. Elle se dit que son visage est plus paisible et le médecin ne la détrompera pas. Chris est dans ce couloir pâle à se demander ce qu'il y a poussé. 2 jours qu'il tournait chez lui, un chez lui qui s'écrit dans la dépendance de parents qu'il supporte. Il est souvent seul dans cet appartement sans âme. S'ils y sont plusieurs, il y reste seul. Télé, musique, fumette, comme ça. Ces 2 derniers jours, il les a vraiment passés seuls, ses parents en balade, chacun de leur côté. Il a bien essayé de retrouver son Verlaine, mais n'a même pas pu finir un seul quatrain. Plusieurs fois pourtant, il y est revenu. Musique, tête vide, télé, télé vide, fond sonore, tout petit bruit d'humanité, rien ne l'accroche. Fumette, il plane, mais trop vite, atterrit. Le nez à la fenêtre, le vide au-dedans, le vide au-dehors, quelques groupes en ennui, et le sien, dissimulé, qui reluque. Verlaine, son lit et le plafond, ce plafond. Henri dort, cette fois c'est bien du sommeil, son corps respire, se repose, il est apaisé. Chris est dans le couloir. En bas, il a demandé « Monsieur Gantier, Henri Gantier, 418. » C'est la première fois qu'il a dit ce nom. Un long frisson a parcouru son dos. Il a eu envie de pleurer. « T'en fais pas, mon petit. Il va mieux. » L'hôtesse a sorti trois mots de tendresse du dessous de son calot. Mots maladroits. Comme toujours ces mots-là. Autre frisson. 414, 416, 418. Mais qu'est-ce que je fais là? La tête lui tourne, comme s'il avait bu, davantage même. Il porte sa main au front, ferme les yeux, respire profondément. Des étoiles se bousculent derrière les paupières. Il n'avance plus. Très lentement, sa tête défile les images de la scène qui l'a amené là. Il ne les savait pas si précisément gravées en lui. Chris a envie de vomir. Ce lieu, ces images, son corps qui refuse. Chris est devant Henri, toujours ailleurs. Ses yeux ne quitte pas les marques qui le balafrent. Ces marques. Pourquoi? Une nouvelle fois, il se déroule la scène. Son front se plisse. Il souffre. Réellement souffre. Pas du regret, pas du remords. Non, il ne comprend pas. Ne se comprend pas de cette violence. Que fait-il là? Cet homme devant lui, Henri Gantier, ce nom l'a fait frémir tout à l'heure. Pourquoi lui? Il est si piètre, si insignifiant. Pourquoi avoir voulu l'abattre? Pourquoi être devant lui à présent? Chris revoit les yeux d'Henri ce soir-là. 6 jours déjà. Une éternité. Ce n'est plus ce corps en dépendance qu'il voit, mais ces yeux-là. Pas la peur, pas la haine, autre chose. Des yeux qui sont à présent enfermés derrière des paupières cireuses. « Monsieur, sortez 5 minutes, c'est la toilette, s'il vous plaît. » Machinalement, Chris sort et attend dans le couloir. Dans ses doigts remontent les vibrations des coups. Il serre les poings, il se mord les lèvres. Des larmes perlent au bord de ses paupières. Quand Marco passait, tous les jeunes hommes se penchaient pour voir ses yeux des Sodomes, où les feux d'amour brûlaient sans pitié ta pauvre cahute au froid d'amitié. Tout autour dansaient des parfums mystiques où l'âme, en pleurant, s'anéantissait. Sur ses cheveux roux, un charme glissait. Sa robe rendait d'étranges musiques quand Marco passait. Seul plaqué dans l'impersonnel alignement inhospitalier. Chris s'effondre, s'avachit sur ses talons et pleure. Vous pouvez entrer.
Non.
Et il part en courant, retournant quelque instant sur lui des regards affairés qui ont peu le temps de se distraire. Cette nuit, Henri fait la différence par les sons que faiblement il perçoit. Le bruit de fond de ville que les baies atténuent est impalpable à cette heure. Saille encore de rares hurlances. Dans l'hôpital, tout est feutré, les lumières aussi. Ses perceptions, moins vives, l'incitent à tenter une sortie. Il trousse doucement les paupières. Une faible lumière l'agresse. Il les referme. Il a encore envie d'essayer. La première forme qu'il parvient réellement à distinguer est celle d'une bonbonne de verre. En un éclair, il saisit. Du fond de son potage, il avait cru déjà discerner. Il avait eu peur et s'était rendormi. Tout s'était effacé. Il est à l'hôpital. Il revoit la scène qu'il y a amenée. Voudrait avoir le droit de tout réécrire. Autrement. En arrière-plan, lui reviennent floues les images de la première nuit passée avec Amélie. Pas de douleur, mais un mal-être extrême. On l'a éloigné de ses sensations, un peu de son corps, et totalement de sa vie. Il se remémore. Chris, œil dur, implacable, avec au fond, comme un doute, une douceur cachée. Et soudain la vie, brusquement la vie. En quelques baisers, miel épais badigeonne sa figure. Des larmes les accompagnent. L'une atteint sa langue incertaine et docile. Elle répand en son palais une essence vitale. Le sel l'attise. C'est Amélie qui pleure. C'est Amélie qui rit. C'est Amélie qui sonne les cloches de la vie.